Bonjour. Voilà, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez. J'aime bien la raconter, parce que vous faites comme toutes les églises, il y a un moment d'offrande. Eh bien, à ce moment d'une offrande, un homme a jeté tout son argent en l'air et il a dit à Dieu, « Prends tout ce que tu veux, je me contenterai de ce qui retombe par terre. » Bon, cette histoire n'a pas été inventée par un Écossais ou un Suisse. Elle était inventée par Zachée, chef des percepteurs d'impôts à Jéricho. La ville de Jéricho, elle est bien connue, n'est-ce pas? Ceux qui sont allés en Israël n'ont pas manqué de s'y rendre et d'aller se baigner dans la mer morte pour flotter comme un bouchon. C'est spécial, hein? Jéricho se trouve à l'arrivée du Jourdain dans la mer morte. Et géographiquement et militairement, cette ville se trouvait à un endroit stratégique très important. C'est là qu'Israël rentre d'exil après avoir passé 400 ans en Égypte et 40 ans dans le désert. Bon, vous connaissez l'histoire de la bataille de Jéricho, avec les trompettes qui font le tour, les murailles qui s'écroulent. Ça fait partie de nos classiques bibliques. Par contre, on a oublié le fait qu'à la fin de cette bataille, Josué a maudit Jéricho. Dans les siècles qui suivirent, cette malédiction a continué de planer sur cette ville. Il est intéressant de voir que Jéricho, ville maudite, est justement au bord de la mer morte, qui, par son eau tellement salée, détruit toute vie à des kilomètres à la ronde. La mer morte, c'est le signe même de la malédiction de Dieu. Zachée, chef des péagers, c'est-à-dire des percepteurs d'impôts, habite justement à Jéricho, ville maudite, mais importante par son commerce, donc intéressant pour un percepteur. Cette fonction privilégiée était mise aux enchères par le gouvernement romain qui l'accordait aux plus offrants. Le percepteur versait à Rome une somme forfaitaire qu'il récupérait par les taxes faites à chacun, et tout ce qu'il pouvait récolter en plus, ben ça lui appartenait. Cette manière de procéder avait des conséquences. Pousser le percepteur à imposer des taxes énormes, les plus grosses possibles. Pourquoi ? Pour s'enrichir. Pour les Juifs, le paiement de ces taxes était particulièrement offensant. D'abord parce qu'il représentait la tyrannie de Rome, mais ensuite parce que l'abus des taxes exagérées était intolérable. Les Juifs qui acceptaient cette fonction de la main des Romains étaient considérés, bien sûr, comme des traîtres, déshonorant leur patrie, et on les méprisait. Zachée, leur chef, était donc riche, mais honni, détesté, méprisé par le peuple. Or, quand Jésus vient à Jéricho, quel espoir sa venue peut-elle donner à Zachée? Voyons. En effet, lui, le percepteur maudit dans une ville maudite face au Fils de Dieu. Oh là là, quel mélange explosif! Dans l'esprit des Juifs, il n'y a probablement aucun espoir pour Zachée et la venue de Jésus à Jéricho ne peut que le confirmer dans sa malédiction et sa perdition. Or, aussi étonnant que ça puisse paraître, il reste un petit espoir, car Zachée cherche à voir Jésus. Mais à quoi ça peut bien le mener? Il ne semble pas y avoir le moindre point commun entre Jésus et Zachée, et pourtant, oui, il y en a un. Le nom de Zachée, dérivé de Zacharie, veut dire « Dieu se souvient ». Quel nom plein d'espérance ! Dieu se souvient de lui ! Zachée pouvait-il porter un nom mieux adapté pour rencontrer Jésus. Et c'est pourquoi Jésus s'invite chez lui. C'est incroyable. Il y a à Jéricho des milliers de personnes et Jésus choisit de s'inviter chez la pire d'entre toutes, d'entre elles. D'ailleurs, ce choix, cet acte va choquer les Juifs. C'est le scandale. Comment Jésus peut-il entrer chez un homme aussi ignoble, disent-ils. Les Juifs n'ont pas pu saisir la profondeur de l'amour de Dieu pour Zachée. Dieu l'aime et se souvient de lui. Ah, quelle bonne nouvelle, il y a de l'espoir. Ben, même aujourd'hui, un homme peut se trouver dans la déchéance la plus complète, dans le péché le plus épouvantable, mais c'est pas ça qui manque, hein. Dieu se souvient de lui et s'invite chez lui. Est-ce que ce récit ne nous invite-t-il pas à garder une vision d'amour et d'espérance pour les personnes qui nous semblent irrécupérables et perdues à jamais? Bon, je sais, c'est pas facile de voir comment Dieu les voit. Bon, il est également difficile d'imaginer Zachée tel qu'il va devenir lorsque Jésus va entrer chez lui. Pourtant, Jésus voit Zachée avec une immense espérance. La preuve, il s'invite chez lui. Mais celui-ci va-t-il lui ouvrir la porte? Puis surtout, va-t-il se remettre en question? Ben, c'est plutôt mal parti. Quand Zachée a devant lui trois pierres d'achoppement qui font manifestement obstacle à sa rencontre avec Jésus. Trois obstacles qui nous concernent aussi, rassurez-vous. Premièrement, il est riche, très riche. Pourtant, malgré le fait que son argent ait été volé, je ne crois pas que Zachée avait ce que j'appellerais une richesse dangereuse. Pensez au récit du jeune homme riche qui discutait avec Jésus, ça se trouve dans Matthieu 19, 21. Il suivait tous les commandements. Oh, c'était un juif vraiment pieux, quoi. Il était honnête, juste, charitable, il n'aurait jamais rien volé. Mais ses nombreuses qualités lui ont servi à rien face à Jésus, parce qu'il était détenteur d'une richesse dangereuse. C'est-à-dire celle dont on ne peut pas se passer, celle qui empêche tout changement de vie. C'est pourquoi lorsque Jésus appelle le jeune homme riche à tout abandonner, ben vous connaissez le récit, celui-ci ne peut pas renoncer à tout ce qu'il a. Il ne peut renoncer ni à son argent, ni à son identité de riche. Zachée, lui, surmonte cette première difficulté, car il sait très bien ce qu'il vaut. Aïe, 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 pas d'illusion sur lui-même. Hein. Il est conscient de son péché et ne cherche pas, comme le jeune homme riche, à se justifier. Zachée, il cherche autre chose. Il rêve d'une vie nouvelle. Et pour elle, il est prêt à sacrifier tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Voilà le premier obstacle surmonté, celui de la richesse et de l'orgueil. Tiens, tiens, cet obstacle subsisterait-il encore aujourd'hui, même pour nous, une richesse dangereuse? Voyons, voyons, notre générosité serait-elle en danger à l'occasion? Oh Seigneur, éclaire-nous. Le second obstacle survient immédiatement après. Zachée cherche à s'approcher de Jésus, mais il ne peut pas s'approcher. Pourquoi? À cause de la foule. Zachée, dès ce moment où il a voulu voir Jésus, a dû être confronté à la foule, et on imagine facilement les remarques décourageantes des gens. « Tire-toi de là, il n'y a rien taxé ici. » T'es pas digne d'approcher un homme tel que Jésus, fiche le camp. Une foule qui dresse une barrière psychologique entre Zachée et Jésus. Peut-être même que ses amis à Zachée, donc sa famille, qui profitait certainement largement de sa fortune, l'ont-ils empêché d'approcher de Jésus, hein? On ne laisse pas la poule aux œufs d'or s'égarer comme ça. Donc, son entourage l'influence. Ben, c'est toujours valable pour nous aujourd'hui, hein? Dans notre vie aussi, la foule a son mot à dire. Notre entourage nous influence, nous conditionne, nous pousse sur des chemins que parfois on n'a pas choisis, nous retiennent de choses qui sont belles. Il est intéressant d'écouter les psychologues qui nous disent que dans la foule, l'individu perd son individualité pour se laisser entraîner par les pulsions collectives. Pour beaucoup de gens, cette pression collective, même de nos amis, hein, de notre famille, peut être un obstacle qui nous empêche de bien accueillir Jésus dans notre cœur. Cet obstacle pourrait-il parfois aussi nous influencer, nous? Bon, quoi qu'il en soit, Zachée a contourné cet obstacle. Il ne se laisse pas influencer par les autres, il est résolu, n'écoute que sa volonté qui le pousse à s'approcher de Jésus. Allez, j'y vais. Et il va enfin le rencontrer face à face. Mais voilà que surgit le troisième obstacle. C'est sa petite taille, un minus. Impossible de m'approcher de Jésus parce que je suis trop petit, je suis rien, moi. Je dis à Jésus. Et quand il dit cela, c'est pas seulement de sa taille qu'il parle, mais probablement de tout son être. Le texte ne dit pas que Zachée était complexé. On connaissait pas ses mots à l'époque, hein. Pourtant, sa petitesse l'a probablement handicapé. D'abord, il a eu probablement peur des moqueries et des insultes. Alors ça, il avait l'habitude, hein. Mais ensuite, parce qu'il a dû se dire, ouais, mais, moi, je suis rien, j'ai trop peu de cheveux, je suis un minable, je suis un voleur. Je suis trop nul pour que Jésus s'intéresse à moi. Au moment où Zachée devait ressentir douloureusement sa petitesse, est-ce qu'il a fait de tels raisonnements? C'est probable. Chers amis, ne pensez-vous pas qu'il nous arrive de faire les mêmes raisonnements lorsqu'il s'agit de rencontrer Jésus ou d'accueillir son Saint-Esprit, et en particulier d'accueillir les dons du Saint-Esprit? Parler en langue et bouscule beaucoup de, fait créer beaucoup de problèmes parmi le monde chrétien. Pour des tas de choses, on a peur, on se sent déjà souvent médiocre, même des fois indigne ou impur. Bon, c'est vrai, on est indigne, mais Jésus a choisi de nous rencontrer tels que nous sommes. Son seul désir, comme avait Zachée, c'est de nous visiter pour changer notre cœur, parce qu'il souhaite nous pardonner et transformer notre vie, comme il souhaitait transformer la vie de Zachée. Donc, n'ayons pas peur. Ni de Dieu, ni de nous-mêmes, hein, ni des autres. Dans le fond, puisque Jésus veut nous rencontrer, eh ben, allons-y. Zachée, résolu, surmonte sa petitesse, et je crois également sa petitesse psychologique, de son caractère et de sa personnalité, en grimpant sur un sycomore pour voir Jésus passer. Ha! Cet acte, c'est comique, quoi, voire ridicule aux yeux de la foule. Oui, certes, mais c'est l'attestation que Zachée a surmonté les trois obstacles qui l'empêchaient de s'approcher de Jésus. Un, d'abord parce que l'obstacle de sa richesse et de son orgueil. En effet, un vrai riche, conscient de son importance, ne serait jamais monté sur un arbre comme un gamin. Ensuite, l'obstacle de la foule, si Zachée était resté dépendant de la foule, de ses amis, de son entourage, il se serait dit, ouais, je vais me ridiculiser. Hein. Il faut que je fasse comme tout le monde. Il ne serait jamais monté sur cet arbre. Et l'obstacle, sa petitesse, s'il avait écouté son handicap physique et ses complexes, il se serait caché, il serait recroquevillé sur lui-même. Il ne serait jamais monté sur cet arbre. Heureusement, il y est monté, et cet acte me semble essentiel pour lui et nous parle aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à Zachée, « Il faut aujourd'hui que j'entre dans ta maison. » Jésus sait qu'il peut s'inviter chez lui. Pourquoi ? Ben parce que Zachée, sur son arbre, il n'est plus un riche, il n'est plus qu'un pauvre qui tend les mains. Son besoin de changer de vie prend le dessus. Zachée, sur son arbre, n'est plus un mouton influençable, lié par toutes sortes de problèmes, qui suit le troupeau. Non, il est un individu conscient de ses faiblesses et de ses besoins réels, et il se tourne vers Jésus pour que celui-ci y réponde. Zachée, sur son arbre, n'est plus un petit minable complexé. Il est devenu grand, important, pas à ses propres yeux, hein, important aux yeux de Dieu. Parce que celui-ci est prêt à accueillir Jésus sans condition. Bon, la suite se passe à une vitesse foudroyante. Jésus s'invite chez lui, Zachée le reçoit avec joie. Et lorsque Jésus sort de chez lui, on découvre les fruits de cette rencontre. En effet, Zachée dit alors, « Maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » et rendre au quadruple à ceux que j'ai volés, alors que la loi lui demande que de rendre le double, pas le quadruple. C'est une vraie conversion, parce qu'il n'a pas cherché, comme le jeune homme riche, à se justifier, mais il a reconnu qu'il n'était qu'un voleur. C'est pourquoi Jésus peut lui dire « Le salut est entré dans ta maison ». Non seulement à cause de l'argent que tu as décidé de rendre, mais à cause de l'ouverture de ton cœur. L'histoire finie, que va devenir Zachée? Ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Zachée, il va rester percepteur. Oh ben, c'est un peu la même chose, hein? Percepteur. On aurait pu croire que devenir chrétien au contact de Jésus, c'est d'abandonner son métier parce qu'on y a fait du mal. Non. Il semble plutôt que Zachée va vivre l'expérience surprenante du percepteur chrétien généreux, vivant selon de nouveaux critères spirituels. Le voleur hyper riche. Ça, c'est spécial, hein, un voleur hyper riche. Il devient donateur hyper généreux. Donateur hyper généreux. En effet, imaginez un instant Zachée qui retourne au travail et qui va lui-même rendre l'argent volé, comme vous le voyez ici. Stupéfaction de ce couple qui ouvre sa porte à un fonctionnaire très trop connu, craint, détesté, et il reçoit de lui en retour 4 fois les excédents de taxes perçues. Alors, vous pouvez imaginer, hein, la nouvelle se répand en ville. Elle suscite des discussions passionnées. Non, c'est pas possible. Zachée est-il en train de mourir ou quoi? Non, il va très bien puisqu'il monte sur un arbre. Bon, alors, il est tombé sous la tête. Non, il est parfaitement sain d'esprit. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a simplement rencontré Jésus, qui a fait de lui une nouvelle personne. C'est pourquoi il rend tout ce qu'il a volé. Bon, et puis ceux qui ont reçu l'argent en retour, qu'est-ce qu'ils ont pu bien dire? Ben, pour que Zachée, chef de la mafia de Jéricho, donne la moitié de sa fortune aux pauvres et rende beaucoup plus que ce qu'il a volé, bon, il a dû se passer un vrai miracle. Il faut que Jésus qui est venu, là, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de formidable. D'ailleurs, je me dis, ouais, il faut que moi aussi je l'invite. Je crois que ce serait bien que je l'invite. Quel témoignage extraordinaire Zachée a probablement apporté à toute la ville de Jéricho. Mais pas seulement à Jéricho. En effet, cet événement qui a certainement bouleversé toute la ville dépasse de loin la personne de Zachée. En effet, cette parole de Jésus a une portée immense. Il a dit, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est un descendant d'Abraham, parce que je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Par la conversion de Zachée et la bénédiction qui touche sa maison, une lumière nouvelle brille sur toute la ville de Jéricho. Les pèlerins qui passaient savaient bien ce qui s'était passé. Une ancienne malédiction pesait sur toute la ville, mais par le salut communiqué à Zachée, un homme maudit est annoncé à la ville tout entière qu'une délivrance est entrée dans tout Jéricho par la visite de Jésus. Et Zachée, l'homme maudit, devient Zachée, l'homme béni. Jéricho, la ville maudite, devient Jéricho, la ville bénie. Ben, vous savez, hein, Jésus, c'est celui qui brise les malédictions. Pour comment il peut faire? Il était rendu capable de le faire en devenant lui-même une malédiction sur la croix. Grâce à lui, la bénédiction de Dieu peut toucher non seulement Zachée, mais Jéricho, puis tout Israël, puis toute l'humanité entière, et nous aussi. Comme avec Zachée, cette bénédiction, après avoir touché notre propre vie à nous, peut toucher également notre famille, notre entourage, notre village, notre pays. Pour conclure, je ne conclurai pas, car c'est la responsabilité de chacun de trouver dans la prière, maintenant et dans les jours qui suivent, une conclusion personnelle. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre conscients des obstacles qui nous empêchent parfois de nous approcher plus de Jésus. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler quels problèmes ou voire quelques malédictions perturbe notre vie et nous freine dans notre communication, notre communion avec Jésus. Ah, mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. À ceux qui, comme Zachée, se tournent vers lui, Jésus a fait cette promesse merveilleuse qui nous est rappelée ce matin. Regardez ce dessin. C'est vous que Jésus rencontre, c'est vous que Jésus regarde et vous parle. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, voilà, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres ta porte, j'entrerai chez toi et je vais manger avec toi et tu mangeras avec moi. Ça, c'est le verset Apocalypse 3:20. Ne nous contentons pas d'un Jésus, d'un Christ tout près de nous, parce qu'on est converti, alors il est pas loin. Ce serait très dommage de seulement croire en lui, mais de le laisser attendre dehors, un peu derrière la porte, ou dans le hall, ou dans l'escalier. Il ne suffit pas de le savoir très proche. Ouvrons-lui tout grand notre porte, nos portes. Et il mangera avec nous, et notre vie sera bouleversée. Bon, il y a ceux qui sont chrétiens de longue date, j'en fais partie, beaucoup de vous en font partie aussi. Hein. Est-ce que vous lui avez ouvert la porte depuis longtemps, mais est-ce que vous l'avez fait entrer dans toute votre maison, dans toute votre vie, dans tous les détails de votre vie? Dans tout votre être. Ben, c'est le moment maintenant de dire à Jésus, oui, je te connais depuis longtemps, mais entre encore plus dans ma vie, dans mon cœur. Viens me visiter, viens transformer ma vie comme tu as transformé celle de Zachée. Peut-être que, à certains moments, vous êtes découragé, ou que vous n'avez pas le temps de vous engager, ou vous savez pas que faire pour lui. Mais le Seigneur souhaite faire un vrai réveil dans votre communauté, comme dans toute communauté. C'est pas la routine qu'il cherche, hein. C'est sa visite qu'il aimerait renouveler régulièrement. Peut-être que, comme la ville de Philadelphie dans Apocalypse 3, peut-être que vous vous sentez personnellement ou en tant qu'église, vous sentez un petit, quoi. Dieu vous dit ce matin, j'ai mis devant toi une porte grande ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu es petite et modeste, peu puissante, comparée à ces grandes églises qui veulent être 1000 personnes, eh ben, tu as gardé ma parole avec persévérance. Alors je t'aime, je te garderai à l'heure de l'épreuve. Je viens bientôt. Tiens ferme. C'est l'annonce d'un réveil dans chaque communauté. Mais ce matin, c'est un appel à manger avec le Seigneur à nouveau. Il frappe à la porte. Vous l'entendez? Il refrappe à votre porte. Oui, le piège, c'est qu'on se dit, oui, mais j'ai déjà donné ma vie au Seigneur depuis longtemps, moi, ça fait 50 ans, peut-être 70 que je suis converti, j'ai ouvert ma porte au Seigneur. Oui, mais il demande plus, il veut se réinviter et manger avec nous plus souvent, quoi. Alors, priez, demandez-lui de vous encourager, de vous expliquer ses plans pour vous, ou est pour votre communauté. Engagez-vous à son service. Plus vous le servirez, plus vous serez béni. La clé de ce cheminement, c'est la prière. Parlez-lui, écoutez-le, il va vous guider. Je ne veux pas dire qu'il va vous dire le menu de repas qu'il aura avec vous. Ça, c'est lui, c'est vous. Faites-le, puis vous verrez, hein. Ça, c'est bon, c'est bon. Prions. Seigneur, s'il te plaît, viens visiter chacun de nous qui accepte à nouveau ta visite ce matin dans notre cœur. Nous avons envie de manger plus souvent avec toi, de t'ouvrir notre porte et toutes nos portes de notre vie. Tu connais le fond de notre cœur, tu connais nos besoins, tu connais nos faiblesses. Même si on a les pires défauts, tu nous aimes comme tu aimais Zachée. Approche-toi de nous, viens remplir notre vie de tes bénédictions. Amen. Je vous propose maintenant, j'ai reçu l'autorisation du président, de vous proposer de prendre 5-6 minutes, de faire des petits groupes de 4-5 personnes, soit en bougeant votre chaise, ou bien vous vous mettez debout, puis vous restez debout, c'est pas long, et pendant quelques minutes, de discuter de qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit à travers ce message. En quoi vous vous sentez concerné et touché, puis vous pouvez discuter, puis peut-être prier. Parce que Seigneur veut toucher nos cœurs ce matin.